Priant. Seigneur, tu nous enseignes, tu nous parles à travers la vie, l'expérience, tu nous parles aussi à travers des paroles qui nourrissent notre être intérieur que tu as créé par avance, dès la Genèse. Et il est créé pour te recevoir, il n'est destiné qu'à te recevoir. Et Seigneur, c'est dans cet être que nous voulons vivre cette communion avec toi. Parle-nous, parle à l'orateur d'abord, et parle aussi, Seigneur, en même temps, frères et sœurs, pour que nous puissions grandir dans ta connaissance, dans la communion fraternelle, en sachant que tu veux nous emmener à cette dépendance totale de toi, progressive, mais qui se terminera par la dépendance finale, quand nous aurons quitté ce corps et te rejoignant. Seigneur, que ta volonté se fasse, parce que c'est la seule qui est bonne, parfaite et agréable. Amen. Quand nous avons appris que notre frère d'étupe, c'était vendredi, qu'il ne venait pas, il fallait se mettre au travail pour le culte de dimanche. Mais c'est facile, puisque je reviens à la même chose. Puisque je parle toujours de la même chose, je dis, voilà, en fait, ça ne pose pas de problème. Parce que j'ai beau tourner autour du pot, j'ai essayé de chercher des thèmes, et à chaque fois que je cherchais un thème, mais ça me ramenait toujours à la même chose, à Christ. Donc, si vous attendez à ce que je vous parle d'un sujet sur l'amour, sur la paix, je ne sais pas, ou sur l'histoire du judaïsme, ou la terre promise, ce que vous voulez, oui, j'aurais pu. Il suffit d'aller sur Internet, puiser, je vous assure, je pourrais vous emmener, mais je peux vous conseiller pas mal d'ouvrages. Ça m'évite de vous en parler, il y en a pas mal. Vous allez sur Internet, vous tapez, vous avez l'histoire, la connaissance, ce que j'appelle le savoir. Hein, à ne pas confondre, c'est le sujet d'aujourd'hui, il ne faut pas confondre savoir et connaissance. Souvent on croit que quand la tête est pleine, hein, on est spirituel. Ou plutôt je pensais à autre chose, ça c'est encore un proverbe marocain qui disait en fait c'est quand le ventre est plein, il dit à la tête chante. Donc, ça n'a rien à voir. Bon, vous voyez comme quoi ça dépend des prix. Voilà, ça dépend des priorités des âmes, donc chacun ses priorités. Alors aujourd'hui, le thème c'est connaître le Seigneur. Attendez, je ne vais pas vous donner une recette, hein, tout de suite. Ce n'est pas une recette que nous allons partager ensemble ce matin pour dire comment connaître le Seigneur. Il n'y en a pas, il n'y a pas de recette. Celui qui vous donne une recette, celui qui prêche une recette, celui qui vend un livre recette, c'est un menteur et une menteuse. Il n'y a pas de recette. La seule recette c'est Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Toute autre recette, ça sera une projection de soi-même, ce que nous vivons, ce que nous avons envie de vivre, et on dit, tiens, suivez la même méthode, et vous allez atteindre le niveau spirituel, je ne sais pas appeler ça comme vous voulez, mais ce n'est pas le sujet. Connaître le Seigneur. Je vous conseille de lire des écrits d'hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui sont arrivés à cette connaissance du Seigneur, pas au niveau intellectuel, mais par l'expérience et par la révélation. Il y en a beaucoup. Vous pouvez regarder 19e, 20e siècle. Ce sont des hommes, des femmes de Dieu qui n'étaient pas célèbres. Je tiens à le souligner. Qui n'étaient pas connus. Mais Dieu les a suscités à un certain moment dans leur milieu en les brisant au point qu'on ne les connaît pas. Et par leur vécu, ils nous ont transmis des paroles, une expérience, quelque chose qu'ils ont vécu. Connaître le Seigneur, c'est l'objectif de la Bible. C'est l'objectif de notre création. Nous sommes appelés en tant qu'Église à connaître le Seigneur. Oui. On est appelé. Si on ne connaît pas le Seigneur, quelque part, on a failli. Nous grandissons de la connaissance du Seigneur. Quelques versets. Philippiens chapitre 3, par exemple verset 10. Je lis. Afin de connaître Christ. Comme une conséquence, un objectif, afin de connaître Christ. Et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. La connaissance, c'est tout ça. Connaître le Seigneur, c'est vivre la communion dans ses souffrances en devenant conforme à lui dans la mort. Souvent, on cherche la résurrection. Non, la connaissance, on est uni dans sa souffrance. Non pas pour être crucifié sur la croix, pas du tout. Mais dans la vie, accepter les épreuves qu'il nous met devant nous comme si c'était une grâce de sa part, parce que ces souffrances me permettent le brisement, le dépouillement, le détachement de nous-mêmes, pour qu'il nous amène à cette dépendance totale de lui. Vous voyez le rôle de la souffrance, de l'épreuve. L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Souvent, on confond la connaissance avec le savoir. Il lui dit, ça fait longtemps avec toi, mais tu veux que je t'alimente avec beaucoup d'argent, beaucoup de paroles. Mais non, tu m'as vu. C'est moi la connaissance. Oui, ça va plus loin la connaissance. Dans Philippiens chapitre 1, verset 10, je lis, « Pour le discernement des choses, les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Le discernement est une connaissance. Quand on vit cette communion avec le Seigneur d'une manière grandissante, on apprend à discerner. On ne discerne pas en disant, mais tiens, il m'arrive ça, j'ouvre la Bible, je cherche le thème, qu'est-ce qu'elle dit la Bible ? Hop, elle dit ça, ben je fais ça. Non, c'est une erreur. On est sous la loi. Notre connaissance est une communion avec le Seigneur. Avec le temps, plus on grandit, ça devient comme une intimité en fait. Comme un pressentiment. Souvent on dit, je le sens, je le sais. C'est une éducation avec le Seigneur qui nous permet de discerner. Hébreux, chapitre 8, verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Ça, c'est la promesse divine pour tous les enfants de Dieu. Vous n'aurez plus besoin qu'on vous enseigne. Le savoir n'est pas obligatoire. Mais quand je me révèle en vous dans une communion, l'Esprit en vous, c'est la connaissance. Il est de la plus haute importance pour nous d'arriver à comprendre que l'objet du Seigneur, pour nous, et par-dessus tout, qu'on le connaisse. Le Seigneur ne cherche qu'à se faire connaître à nous. Il n'est pas loin de nous. Souvent on dit, Seigneur, t'es où ? T'es où, mais t'es... Mais non, c'est nous qui nous éloignons, pas lui. Lui, quand dès que nous sommes tournés vers lui, nous avons ouvert notre cœur. Le vide qu'il a créé en nous, vous savez, on a déjà discuté dans la Genèse, Dieu a créé l'homme et il a créé en lui ce vide. Ce vide ne peut être comblé que par l'Esprit de Dieu. Et bien, dès que nous nous tournons vers lui, ce vide est rempli par l'Esprit Saint. Il est là. Nous avons tout. Nous avons Christ entier en nous. Mais seulement il y a ce voile qui nous sépare de lui. Ce voile, ce n'est rien d'autre que nous-mêmes. C'est notre nature. Notre nature qui ne cherche qu'à faire que sa tête. Jusqu'au point qu'elle crée ses règles qui ressemblent à celles de Dieu. Toute l'apparence, mais ce n'est pas celle de Dieu. On se crée des règles et on dit, voilà, je veux connaître le Seigneur, il faut que je suis comme ça, comme ça, comme ça. C'est un voile. Mais tant que ce voile ne s'est pas déchiré, nous n'aurons pas cet accès à la connaissance du Seigneur qui est déjà disponible, qui est déjà là. Ne cherche que se faire connaître. Ce voile, c'est nous-mêmes. Mais ce n'est pas encore une fois une condamnation. C'est dit dans la parole. Il ne faut pas dire, ah, c'est de ma faute. Non, c'est normal, c'est naturel. En tant que chrétien, nous sommes naturels. Nous sommes charnels comme les Corinthiens. Mais ce voile doit se déchirer. Il se déchire par quoi ? Est-ce que parce que je me lève le matin, je dis, ça y est, je décide, le voile se déchire ? Mais pas du tout. Il se déchire par l'expérience et par l'épreuve. Et c'est là le rôle de l'épreuve. Comment voulez-vous que je me détache de moi-même si le Seigneur ne m'emmène pas, juste dans les faits, dans la réalité, à me détacher de moi-même. Je vous ai toujours dit mon témoignage il y a 2 ans. Je n'ai jamais autant prié quand j'ai eu des problèmes de dos aux urgences, etc. Et Viviane peut en témoigner. C'est quand j'étais touché dans mon corps, où j'étais obligé d'aller aux urgences, où je ne sentais plus mes doigts neurologiques. En plus, on me disait, on ne sait pas ce que vous avez. Mais les analyses, et pourtant je le sentais. Et je descendais en bas sans le dire à personne pour prier. Mais Seigneur, les enfants sont petits. Oui. C'est dans l'épreuve que nous revenons à Dieu. Et ça, on est tous pareils. Comment voulez-vous qu'on se détache de soi si tout va bien ? Ben, écoutez, je peux servir le Seigneur. Mais oui. Et devant l'épreuve, on commence à dire, ah, Il y a un problème. Ah, il y a un problème là. Non, l'épreuve fait son œuvre en nous quand on nous emmène à un brisement, une dépendance totale de Dieu. La connaissance, connaître, on a un langage, une langue française très riche. Très riche. Connaître. Le connaître est composé de deux. Connaître. Si je dois traduire ce verbe, ça veut dire naître avec. Connaître, naître avec. Oui, naître avec. C'est-à-dire, c'est dans une communion que nous pouvons connaître la transformation. C'est dans notre communion que nous pouvons vivre notre métamorphose. C'est dans une communion que le Seigneur peut se révéler en nous. Rappelons-nous que le Seigneur, quand il est sur la croix, quand il a rendu l'âme, quand il est mort, le temple, le voile du temple s'est déchiré. Voilà le message. C'est dans la mort, dans le brisement, dans le dépouillement total, que ça s'ouvre. Prenez les témoignages des conversions. Souvent, quand est-ce qu'on revient vers le Seigneur? Quand est-ce qu'on ouvre son cœur au Seigneur? Est-ce que quand tout va bien? Mais pas du tout. Prenez chacun son expérience, et j'en suis sûr qu'on peut en témoigner cet après-midi, et chacun peut donner son témoignage. C'est dans la difficulté quand ça ne va pas que le Seigneur touche les cœurs. Souvent, il nous emmène à un point où de questionnement, de ça ne va pas, ou de difficulté, c'était mon témoignage. Le Seigneur s'est révélé, c'était le moment où j'étais SDF. C'était le moment où mes parents m'ont lâché. Mon père m'a dit, je ne te donne plus rien, tu as raté tes études. C'est quand j'étais dehors, j'avais plus rien à manger. C'est dans cette difficulté-là que je suis devenu disponible, où quelqu'un est venu m'offrir une Bible. Un certain Saïd qui m'a offert une Bible me dit, tiens, lis-la. Et je commençais à la lire dans les nuits avec une bougie parce que j'avais pas d'électricité, je l'avais pas payé. À un certain moment, dans une chambre qu'on m'offrait, donc c'était un club de foot parce que j'avais pas de logement à cette époque-là. Et c'est là, c'est dans la difficulté. L'apôtre Paul, le Seigneur lui a parlé quand? C'est quand il l'a mis aveugle durant 3 jours. Oui. À quel moment le peuple hébreu a accepté de quitter l'Égypte? C'est quand ils étaient dans l'esclavage. Oui, je peux prendre d'autres, hein, d'autres exemples, et reviendra toujours à la même chose. Le Seigneur se révèle quand l'être humain arrive à ses limites. Si nous sommes convaincus que tout va bien, ben très bien. Mais quand le Seigneur suscite une épreuve, peut-être à ce moment-là dire Seigneur, merci. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me parler. Là, tu es en train d'enlever quelque chose et tu veux me parler. Je répète encore une fois, je parle des épreuves subies et non des épreuves recherchées. Ne recherchons pas les épreuves, ça, c'est pas du tout biblique. Mais quand le Seigneur suscite des fois des difficultés dans la vie, eh bien, il veut nous parler. Et la conséquence, elle est grande après. Connaître le Seigneur. D'ailleurs, un passage dans Jean, je vais le lire avec vous, dans l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 20 à 26. Il parle en quelque sorte de connaissance. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec insistance, hein, ils ont entendu parler de Jésus, hein, et ils viennent le voir. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. On veut voir ce Jésus. Voir Jésus qui? Celui qui fait des miracles, etc. Donc il a une certaine célébrité. Nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe, le dire à Jésus. Jésus leur répondit. Ils viennent le voir. Le Seigneur, imaginez la scène. Il y a des Grecs, il y a des gens, il y a des curieux, ils ont entendu parler de Jésus qui fait des miracles. Ils ont même dit, c'est plus qu'un prophète. Ils disent, ah, on veut le voir. Ils viennent voir ses disciples. Ils disent, tiens, dites à votre Jésus là, on veut le voir. Ils viennent voir le Seigneur. Ils lui disent, les Grecs, tout ça, veulent te voir. La réponse en main, il leur dit, mais écoutez, faites-les rentrer. Hein? Je ne sais pas, normalement, logiquement. Ou s'il n'a pas le temps, il leur dit, mais donnez-leur un rendez-vous. Ou je ne sais pas, moi, il les fait attendre. La réponse du Seigneur, elle est bizarre. Imaginez la scène. Hein? Ils veulent le voir. Ils viennent demander au Jésus. Voilà la réponse de Jésus. Écoutez la réponse. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Vous ne trouvez pas bizarre comme réponse? Nous voulons voir Jésus. Il leur répond par la parabole du grain de blé. On peut même dire qu'il est fou. Mais non, pour la simple raison. C'est que ils veulent voir Jésus. Qu'est-ce qu'ils veulent connaître de Jésus? Ils veulent un savoir. Ils veulent voir celui qui fait des miracles. Mais le Seigneur parle de la vraie connaissance. Ils veulent me voir. Ils veulent vraiment me connaître. Il faut qu'ils passent par la croix. C'est le grain de blé. Vous voulez me connaître? C'est pas en lisant la Bible. C'est pas en, je ne sais pas moi, c'est pas en priant tous les jours. C'est pas en, je ne sais pas moi, en me contemplant ou devant la Sainte Seine. Non. Vous voulez me voir? Il faut me connaître. Pour me connaître, porte ta croix. Portez votre croix. Passez par cette mort, par ce brisement comme le grain de blé, et vous allez voir, vous allez rentrer dans une communion. Vous allez me connaître. C'est la réponse qu'il a donnée à ces gens-là. C'est la réponse qu'il nous donne aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous allons à l'église, nous voulons sentir le Seigneur. Je veux avoir la chair de poule le matin parce que quand je chante, vous voyez, c'est comme on ramène le Saint-Esprit à une sensation. Nous voulons danser ensemble. Nous voulons... Mais c'est ça, c'est comme les Grecs, le Seigneur le dit. Vous voulez me connaître? Vous devez passer par le même chemin que moi, par le même grain de blé qui doit rentrer en terre, c'est-à-dire ce brisement, cette déconnexion avec vous-même. Et à ce moment-là, je vais venir, moi, à travers vous, en vous, dans une communion totale dans l'esprit. Et là, vous me connaissez et je vous connaîtrai. Le Seigneur Jésus, celui qui représente la pensée de Dieu. Il est l'homme selon son propre cœur. Il est notre modèle et notre devenir. Il est notre être. Il est notre pourquoi. Pourquoi nous sommes sur terre? Il n'y a eu jamais dans sa vie terrestre aucune part ni aucun aspect dont la force et le pouvoir n'aient été enracinés dans sa connaissance intérieure de Dieu, de son Père. Ne devons pas oublier que sa vie a été une vie de dépendance absolue de Dieu, volontairement acceptée. Il attribuait toutes choses à son Père. La parole, la sagesse, les œuvres, tout était en lien avec son Père. Et attention, le Seigneur, il est notre modèle. Il est au-dessus. Mais il nous appelle à cheminer vers cet état-là. Il était Dieu manifesté en chair, le Seigneur. Mais il a accepté du côté humain et comme homme les limitations et la dépendance de l'homme, afin que Dieu soit manifesté. Il y avait là une dépendance par laquelle il ne pouvait rien faire de lui-même. Jean, chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » On est dans une communion. Je peux même enlever le comme. On est dans une union. Nous sommes appelés à une union avec le Seigneur. Ne parlons plus de relation. Nous sommes dans une union avec le Seigneur. Le principe de sa vie tout entière, dans chacune de ses phases et dans chaque détail, a été sa connaissance de Dieu. Je ne parle pas de savoir. Je parle de la connaissance, cette communion dont en toute situation, nous sommes avec le Seigneur, quand ça va ou quand ça ne va pas. Il connaissait le Père à l'égard des paroles qu'il disait. Il connaissait quand au moment où il devait parler, agir, marcher, s'arrêter, s'abandonner, se refuser, se taire, en toute situation, il était en communion, connaissance avec le Seigneur. Notre vie chrétienne, elle doit tendre, nous grandissons, nous commençons petit, mais on grandit, c'est ça la maturité spirituelle, et moi le premier. Nous sommes appelés à vivre cette connaissance d'une manière progressive. Mais il n'y a pas de progression s'il n'y a pas de dépouillement. Dieu parle, je dirais, dans la nuit, quand ça ne va pas. Il parle aussi quand ça va, mais il nous enseigne plus quand ça ne va pas. Tout est pour lui gouverné par cette connaissance intérieure de Dieu. La connaissance, je dis, n'est pas le savoir. Le savoir n'est pas une condition pour vivre la connaissance. Si on fait un voyage, il y a plus de 2000 ans, à ces chrétiens qui se réunissaient dans leur maison, la plupart ne savaient ni lire ni écrire. Et pourtant, c'est des modèles pour nous. Aujourd'hui, ça devient indispensable. Tu veux être chrétien, mais fais une formation. Mais vous rendez compte? Mais en fait, on ne se rend même pas compte de la subtilité. Vous voulez grandir de la connaissance? Faites une formation. Je ne dis pas que la formation est inutile, mais ceux qui vendent des formations comme dire « c'est indispensable, sinon vous ne progressez pas », ils rendront des comptes devant Dieu. La connaissance est une communion. Je n'ai pas besoin de lire ou écrire pour que Dieu grandisse en moi. Et souvent, le savoir est un obstacle dans notre avancement, parce qu'on fait travailler la tête. Prenez des exemples des pays pauvres, en Asie, en Amérique du Sud ou en Afrique. Ils ont une parole tellement simple, nous sommes gênés d'être à côté. Ça ne vous arrive pas des fois d'être en église, ou des fois il y a des chrétiens de couleur noire, tout ça, en train de chanter. Mais c'est gênant là, oh, mais il ne se pose pas la question. Pour lui, il est dans une relation tellement naturelle, il peut danser, il peut chanter, il peut crier. Pour lui, ça ne gêne personne, alors que nous sommes gênés. Parce que nous avons une certaine éducation occidentale. Non, tout doit être dans les règles. Et si vous prêchez, monsieur, donnez-moi l'introduction, le développement, la conclusion, pour que ma logique puisse vous suivre. Sinon, si ma logique ne vous suit pas, comment voulez-vous que je comprenne? Et si je ne comprends pas, comment voulez-vous que je connaisse le Seigneur? Et voilà le piège. Nous ramenons la connaissance du Seigneur à une façon de comprendre, à une logique, alors que le Seigneur peut parler. Le Seigneur, il a dit, si je veux faire parler cette pierre, je la ferai parler. Nous, non. Quand on parle de la croix, la Bible nous dit que la croix est une folie. Nous, non, il faut la rendre plus logique. Vous voyez, tout cela, le Seigneur doit le dépouiller. En fait, il a beaucoup de travail avec nous. Tout cela, le Seigneur doit nous faire mourir à tout cela pour que nous puissions être régénérés, ressuscités dans une nouvelle stature à travers laquelle seulement le Seigneur peut s'épanouir et nous parler. Vers la fin de l'évangile de selon Jean, qui met tout spécialement en lumière cette question de connaissance, d'ailleurs vous pouvez le relire, le terme connaître se rencontre près de 55 fois. Connaître, 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 connaître. Ce n'est pas un hasard. J'ai toujours considéré l'évangile de Jean, c'est l'évangile céleste. Ça ne veut pas dire que les autres sont... Les autres sont plus un petit peu d'historique, tout ça, mais ça parle. Mais si vous lisez l'évangile de Jean, c'est vraiment un évangile spirituel céleste, si vous le lisez. On a l'impression qu'on est dans une autre dimension. Il parle toujours du ciel, du spirituel. Eh bien, il y a la connaissance. Notre Seigneur a fait cette déclaration dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, voyez, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ben voilà. La vie éternelle, c'est la connaissance. La connaissance, ce n'est pas le savoir. La connaissance, c'est la communion. La communion dans sa mort et dans sa résurrection. Qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cela ne signifie pas simplement que la vie éternelle est donnée sur la base de cette communion. Il y a beaucoup d'autres choses, mais la connaissance est très importante parce que c'est dans la communion avec le Seigneur qu'il peut nous parler, nous transformer. Il peut y avoir une vie céleste, une vie spirituelle chez un chrétien, chez une chrétienne, même s'il n'y a pas de savoir. Ou un savoir limité. Mais la vie dans sa plénitude est liée étroitement à la connaissance du Seigneur. C'est une connaissance grandissante, progressive. On ne l'a pas du jour au lendemain, mais c'est un apprentissage. Dieu nous éduque. La connaissance grandissante, c'est le voile qui se déchire. Notre nature qui vit d'une manière pratique sa transformation pour laisser le Seigneur se révéler à nous. Nous sommes appelés à connaître le Seigneur. En tant qu'Église, en tant qu'individu, en tant que chrétien, nous sommes appelés à rechercher la connaissance du Seigneur. En fait, peut-être mon langage, je vais le transformer. En fait, il ne faut pas chercher la connaissance du Seigneur. Je vais me corriger. Il faut laisser le Seigneur se connaître à nous. Il faut laisser le Seigneur se faire connaître. Tu vois, même là, oui, que depuis tout à l'heure que je dis il faut chercher à connaître, automatiquement dans notre tête, sans se rendre compte, il est en train de dire qu'est-ce que je dois faire. Oui, c'est pour ça que je remédie tout de suite. En fait, c'est Comment? Il faut laisser le Seigneur se faire connaître à nous. Mais on peut le décider du jour au lendemain. La seule chose qu'on peut faire, c'est le prier. Seigneur, je veux te connaître. Fais-toi connaître à moi. Mais je le reconnais devant toi. À aucun moment, je pourrais réussir ou faire quoi que ce soit pour te connaître. C'est une reconnaissance, c'est une prière, c'est une confession de faiblesse. Et c'est seulement là le Seigneur nous fait réaliser en nous-mêmes, effectivement, c'est lui qui veut se faire connaître. Nous ne pouvons pas nous faire connaître. Mais comme notre nature est toujours là, il va faire en sorte de la briser, de la dépouiller, pour qu'on puisse être dépendant totalement de lui. Cela explique toutes nos expériences, nos épreuves, nos souffrances, nos perplexités, nos faiblesses, nos situations difficiles, nos impasses, nos insuccès, nos agonies. Je peux faire toute une liste. Tandis que le but de l'épreuve et du feu est de purifier notre esprit, de nous purifier, de développer en nous la grâce et de nous débarrasser de toutes les scories. L'épreuve. Il y a cependant dans cette fournaise, dans cette épreuve, une lueur, une lumière. Celle qui est du Seigneur, qui est par-dessus l'épreuve, il est en train de nous parler. Et il nous fournit une paix insondable. On n'arrive même pas à l'expliquer. Et pourtant, nous sommes dans l'épreuve. C'est que le Seigneur est à l'œuvre. Il n'y a qu'un seul moyen par lequel nous arriverons réellement à connaître le Seigneur. C'est par l'expérience. L'expérience voulue, conduite par le Seigneur dans la vie de chacun de nous. Les études bibliques, la méditation des Écritures sont des questions essentielles. Elles viennent donner une lumière à notre vie. Mais ce n'est pas l'élément indispensable pour notre conduite en tant que chrétien. Tous ces éléments-là sont bons, car ce sont des questions importantes. Mais avant tout, le Seigneur tient plus qu'à toute chose à ce que nous le connaissions, lui, et que lui et lui seul. Il est très possible pour nous de posséder merveilleusement les Écritures. Il est possible pour nous d'avoir Bac plus 25 en technologie, je dirais en théologie. Il est superbe d'être reconnu dans le milieu chrétien, d'avoir une compréhension intime et familière avec la doctrine, incollable sur les questions bibliques, d'être un ouvrier infatigable, un évangéliste, d'avoir une dévotion sincère pour le salut des hommes, et de n'avoir, hélas, aucune connaissance personnelle et intérieure de Dieu. Et c'est ça, rater la cible. Il arrive si souvent que le Seigneur doive nous enlever notre activité. Et c'est grâce à Dieu si le Seigneur permet des situations difficiles, des épreuves. Pas pour nous punir, ça c'est l'humain qui le dit et le diable qui accuse. Non, c'est qu'il veut nous libérer de nous-mêmes. C'est une libération. Mais pas pour nous détruire, n'est-ce pas? Non! Parce que tout de suite, pendant qu'il fait ça, en même temps, il est en train de restaurer et en train de prendre toute la place. C'est l'un des rôles de l'épreuve. Ce qui donne à toute chose leur valeur suprême, ce n'est pas l'information que nous apportons, comme je fais ce matin, ni la pureté de notre doctrine, ni l'image que je peux vous donner, qui peuvent me flatter. Encore un piège. Ni la somme de travail que nous accomplissons, mais simplement le fait que nous connaissons le Seigneur de manière profonde et puissante, et après, il va mener la route lui-même, et il nous montre au fur et à mesure qu'on nous avançons, voilà ma volonté, voilà mon chemin, etc., etc. Et d'un seul coup, on voit que les choses avancent d'un naturel que nous soupçonnons au départ. On ne sommes qu'éblouis, et nous ne pouvons que glorifier le Seigneur, d'où notre prière se change. Mais ce n'est plus une supplication, ce n'est plus une demande. Pendant que nous vivons, nous sommes en train de remercier et louer le Seigneur. Tandis que notre travail pour les autres peut dépendre de beaucoup de choses, de ressources matérielles, par exemple pour l'Église, exemple, notre réelle relation, et ça, il faut, le Seigneur le permet. Mais notre relation spirituelle est basée uniquement sur notre connaissance avec le Seigneur. Peut-être que nous désirons des instructions, des ordres. Le Seigneur veut que nous ayons une communion, une connaissance sa pensée à lui. Philippiens chapitre 2, verset 5, je lis, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Comment voulez-vous que je peux avoir les sentiments de Jésus si les miens demeurent? Ah, vous allez me dire, mais il faut mélanger les deux alors. Mes sentiments et celles religieuses, je fais le compromis, je dis, ben voilà, la religion. Non, ayez en vous les sentiments du Seigneur, c'est que les sentiments du Seigneur. C'est pas plus clair que pour moi. Ça veut dire que les miens doivent se mettre de côté et la place, il y a les sentiments du Seigneur. Ce n'est pas parce que je le décide. C'est que le Seigneur m'emmène à cette libération de mes sentiments à travers la vie, l'expérience pratique avec lui. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. J'espère que nous l'avons aussi. Christ est notre conscience. On le connaît à travers le Saint-Esprit. Il peut nous donner et développer en nous cette conscience. L'intelligence spirituelle, si je fais un constat aujourd'hui, dans nos églises que je dis aujourd'hui depuis 30 ans que je suis chrétien, sans généraliser bien entendu, parce qu'on a l'impression que tout le monde est pareil, toute l'église est pareille, non. L'état des choses parmi le peuple de Dieu, j'irais même dire effarant. C'est pour ne pas dire gentiment pauvre spirituellement. L'intelligence spirituelle, ça doit être un mot tabou. On parlait des choses d'autorité. Non, mais c'est impossible tout ça. Pourquoi on parle de l'intelligence spirituelle? Ça, c'était il y a 2000 ans. Maintenant, non. Maintenant, on est au 21e siècle. On vit avec notre temps. Il nous faut quelque chose de tangible, scientifique, tout ça. Mais quand vous nous parlez de foi, non, c'est... Vous vous rendez compte? On remet en question même la parole de Dieu. L'intelligence spirituelle, personnelle, intérieure, devient quelque chose de très rare, exceptionnel. Et il ne faut pas s'en étonner si l'ennemi s'en amuse aujourd'hui. S'il y a des divisions dans les églises, s'il y a des courants, si on cherche les pouvoirs, que ce soit l'église catholique, l'église protestante, on chapote, on maîtrise, on veut une existence. Et on vient le dimanche dire, Seigneur, voilà ton église. Non, laissez-moi dire non. Je dis, non, c'est pas mon église, c'est la vôtre. Mon église, c'est moi. Et moi, je vais être en vous. Je veux tout diriger en vous, y compris votre église. Voyez? Dès que ce sont les choses que nous recherchons, par exemple les expériences, les sensations, les preuves, les évidences, les manifestations spirituelles, j'en passe, sans dire qu'ils n'existent pas, hein, quand elles prennent la place de Dieu, nous entrons dans un royaume dangereux, où Satan peut donner une fausse conversion, un faux baptême d'esprit, oui, je le dis, un faux baptême d'esprit, et dans l'histoire, regardez l'histoire, il y a eu des faux baptêmes d'esprit. Et je l'ai vécu personnellement, je le dénonce aujourd'hui. Dans les années 90, où j'étais invité par un pasteur, je ne donne pas son nom, sur la région de Belfort. Il me dit, viens, je vais te montrer la manifestation d'esprit. Et quand je suis rentré dans son appartement, il y a des gens qui se roulaient par terre, morts de rire. Et on me dit, c'est le baptême de l'esprit. Ça existe, je ne parle pas dans le vide, je l'ai vécu. Honte à nous. Et que Dieu nous pardonne. On ramène l'Esprit Saint à une folie des hommes. En train de faire des manifestations diaboliques et dire que c'est l'Esprit Saint. Connaître le Seigneur d'une manière véritable, cela signifie fermeté lorsque les autres sont ébranlés. Fermeté. Quitte qu'on nous traite de traditionnaliste, qu'on veut. Qu'on me le traite de traditionnaliste, c'est un honneur pour moi. Constance dans les temps de dures épreuves. Et c'est à travers les épreuves que le Seigneur sanctifie son Église. Qui reste chrétien quand il y a l'épreuve? Qui reste chrétien quand on est en Afghanistan, en face d'un terroriste avec son couteau, et te dire, « Hé Dominique, parle-moi de la Bible. Tu vois le couteau là ?» Si on n'est pas dans une communion avec le Seigneur, mes frères et sœurs, on le lâcherait comme il a fait Pierre. Il l'a renié 3 fois. Mais après, il s'est rendu compte qu'il était incapable de le servir. Nous sommes capables de servir le Seigneur quand tout va bien. Hein. En France, on peut. Hein. Moi, je peux évangéliser. Il n'y a pas de risque. Mais si on est réellement chrétien, au fond de nous, et bien même dans l'épreuve de la mort, comme le premier martyr dans la Bible, comment il s'appelle? Étienne. Lisez Étienne. Pendant qu'on le lapidait, qu'est-ce qu'il disait? Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pendant qu'il le lapidait, le tuait, il voyait le ciel ouvert. Il était dans une connaissance, dans une communion avec le Seigneur. Il faut que nous sentons pressés de venir et de revenir à lui, à notre Seigneur, en lui demandant de façon définitive de prendre à notre égard toutes les mesures nécessaires pour que nous le connaissions lui-même, seul dans son intimité. Je reconnais devant vous que j'ai un message pour moi-même et pour vous qui n'est pas celui de fidélisation. De vous dire, mes frères et sœurs, tout va bien, mais je me dois de vous le dire, de me le dire à moi, parce que sinon, nous rendrons tous compte devant le Seigneur. Que Dieu nous vienne en aide dans la communion fraternelle avec lui et qu'il prenne tout contrôle de nous. Et avec le Seigneur, il y a toujours de l'espoir. S'il nous avertit, c'est qu'il a déjà préparé le chemin de la délivrance. Et nous serons tous en communion avec lui. Quand on se verra là-bas au ciel, on se regardera. On ne sait pas dans quel corps on sera. Et on dira, merci Seigneur, parce que tu nous as avertis. Amen.